Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 4. En se rendant à l'hôtellerie, le docteur Hébert avait jugé la présence de Roger indispensable au chevet de sa cliente. La dernière visite qu'il avait faite à celle-ci ne lui avait plus permis de douter que la maladie s'aggravant de jour en jour en était arrivée à ce point où l'on doit essayer de tous les moyens afin d'agir autant sur le moral que sur le physique. Le docteur ne doutait plus que la comtesse ne fût profondément affligée de l'absence de son neveu. Aussi n'avait-il pas hésité, ainsi qu'on l'a vu, à dire au lieutenant de police ce qu'il pensait à cet égard. Il était parti de l'hôtel de Lignières, convaincu que le moment était absolument propice à un rapprochement entre l'oncle et le neveu, et il s'était rendu auprès de Roger pour le décider à l'accompagner chez le comte. On sait dans quelle situation il avait trouvé le chevalier aux prises avec les agents sous les ordres de M. Marest. Grâce à son intervention, l'employé de police s'était rendu aux raisons formulées par le docteur, qu'il savait fort avant dans l'intimité du comte de Lignières. Au surplus, M. Hébert lui avait déclaré qu'il quittait à l'instant même le lieutenant de police et que le magistrat l'avait chargé de lui ramener son neveu. Devant le ton affirmatif du médecin, M. Marest avait bien, qu'à regret, battu en retraite. Lorsque l'auberge eut été complètement évacuée par les agents de police et les curieux qui avaient réussi à se faufiler dans le corridor, M. Hébert se hâta de dire au chevalier « J'ai votre parole. Nous allons tout de suite auprès de la comtesse. C'est urgent. » « Mon Dieu, que me dites-vous là ? » fit Roger sur le visage duquel se peignit l'inquiétude. « Quelque complication s'est-elle produite dans l'état de la chère malade ?»« La situation de la comtesse a été toujours considérée par moi comme très grave. Aujourd'hui, je vous dis, chevalier, il n'y a plus d'hésitation possible. Quelque répugnance que vous en éprouviez, vous devez retourner immédiatement à l'hôtel de Lignières. » Roger avait suivi le docteur, en silence et l'esprit profondément troublé. Une fois la voiture en route, M. Hébert jugea utile de faire la leçon au chevalier sur la conduite à tenir si le lieutenant de police se laissait aller à de violentes remontrances. « Vous devez tout accepter, » dit-il au jeune homme, « et vous taire. » Et comme Roger se laissait aller à un mouvement de colère, « Quel que soit votre ressentiment, dont je n'ai pas à apprécier la valeur, je vous répète, mon ami, que vous devez tout supporter dans l'intérêt de celle qui vous a tenu lieu de mère. » « Au surplus, continua le docteur, n'ai-je pas votre promesse formelle? Comment pourrais-je douter du reste que votre affection pour la comtesse doive passer chez vous avant tout autre sentiment ?»« Je vous ai promis de suivre scrupuleusement vos conseils, » répondit Roger. « En vous accompagnant, ainsi que je le fais, et dans les conditions que vous savez, je vous donne la mesure de mon affection, de mon dévouement à la chère malade, qui souffre pour moi et par moi. Tout ce que je vous demande, docteur, c'est de me permettre de passer chez moi afin de pouvoir me présenter dans une tenue convenable. « Soit, » fit le médecin. Et il se pencha à la portière pour indiquer une nouvelle direction au cocher. Grâce à ce retard, M. Marest put arriver à l'hôtel de Lignières avant le prisonnier et rendre compte au lieutenant de police de ce qui s'était passé dans l'auberge du faubourg Saint-Honoré. En apprenant que le chevalier était retrouvé et qu'il allait bientôt comparaître devant lui, M. de Lignières ne fut pas maître d'une émotion violente où la colère entrait pour une large part. Il n'avait pu oublier que le révolté l'avait tenu en échec. D'autre part, il se rappelait la scène qui s'était passée dans son cabinet et pendant laquelle Roger avait arraché du livre des archives de la police la page où il était question de la famille de Vaudrey. Et ce jeune homme, en accomplissant cet acte de vigueur et d'audace, avait trouvé le moyen de paralyser sa fureur en le rappelant au sentiment de sa propre dignité. Le lieutenant de police avait de plus éprouvé une terrible colère en n'obtenant pas que Roger se soumît à un mariage de convenance désiré par le roi. Il en voulait cruellement au gentilhomme qui faisait, pensait-il, litière de sa noblesse pour s'abaisser à des amours de courtaud de boutique. Mais ce qui tenait le plus au cœur à M. de Lignières, c'était d'ignorer ce que contenait cette page que Roger avait arraché, froissé et fait disparaître en la plaçant sur sa poitrine. Aussi, en apprenant le retour du coupable avait-il retrouvé vivace dans son âme les angoisses d'autrefois. Cette terrible jalousie qui l'avait torturée depuis son mariage et que les souffrances mystérieuses de Diane avaient alimentée reparaissait dans toute sa force pour lui dicter l'inébranlable résolution de découvrir coûte que coûte la vérité qu'il avait cru un instant tenir. Dans le trouble qui l'envahissait, il congédia d'un geste le policier avant même que celui-ci eût achevé de débiter son rapport. M. Marest se retira tout désappointé. M. de Lignière marchait à grands pas dans le cabinet, s'arrêtant pour écouter au moindre bruit qui se faisait dans l'antichambre. Mais aussitôt qu'il avait acquis la conviction que ce n'était pas encore Roger, il se remettait à fulminer mentalement contre le révolté. En vain se rappelait-il qu'il avait promis au docteur de ne pas faire d'éclat, il ne se sentait pas la force de refouler le sentiment qui débordait en lui. Et cependant, il savait, on ne le lui avait pas caché, que le moindre choc moral pouvait provoquer une catastrophe chez la comtesse. Du reste, pendant les longues heures passées au chevet de la malade, n'avait-il pas pu apprécier par lui-même la situation dans tout ce qu'elle avait de lamentable? Pendant qu'il assistait à ces accès de délire qui ressemblaient à de l'agonie, ne s'était-il pas 100 fois reproché à lui-même d'avoir montré trop de sévérité pour la conduite de son neveu? Ne s'était-il pas reproché d'avoir, en surprenant la comtesse dans la chambre de l'ouvrière, provoqué la terrible crise dont l'issue pouvait être si terrible? Et voici qu'il se trouvait dans l'alternative ou de pousser à la catastrophe tant redoutée, ou de se contraindre devant le chevalier, donnant ainsi, implicitement, gain de cause au gentilhomme qui résistait au désir exprimé par le roi et qui pousserait peut-être l'audace jusqu'à lui demander compte du châtiment infligé à Henriette Gérard. Cette idée plongeait de nouveau M. de Lignière dans la fureur qu'il avait eu tant de peine à dominer. La perspective d'une explication avec Roger, dans laquelle celui-ci évoquerait les persécutions dont on avait martyrisé une innocente, prenait dans l'esprit du comte les proportions d'une capitulation indigne du chef de la famille de Vaudrey. Alors, au raisonnement qui s'était à grand-peine imposé, à l'attitude froide mais calme qu'il avait réussi à se donner, succédait chez le mari de Diane une agitation nouvelle, d'autant plus violente qu'elle avait été plus longtemps et plus péniblement contenue. Si, en ce moment où sa colère se déchaînait ainsi, le chevalier de Vaudrey se fût présenté à l'improviste devant lui, aucune considération n'aurait pu empêcher l'oncle de redevenir intraitable sur la question du mariage souhaité par le roi, et le magistrat de se montrer impitoyable envers le prisonnier évadé de la Bastille. Mais, fort heureusement, Roger avait voulu faire un assez long détour avant d'arriver à l'hôtel de Lignières. Cette circonstance donna au lieutenant de police le temps de se souvenir qu'avant d'être magistrat, il était homme et homme de cœur en dépit des instants d'aveuglante colère provoqués par son insurmontable jalousie d'un passé qui demeurait malgré tout mystérieux pour lui. M. de Lignières se rappela qu'il y avait dans ce même hôtel où il attendait Roger une infortunée qui s'éteignait, épuisée par un mal que la science se déclarait impuissante à combattre et dont Dieu seul connaissait la cause, en dehors de la patiente et peut-être aussi du neveu que celle-ci avait élevé. Cette dernière supposition avait traversé l'esprit du magistrat comme un éclair. Il s'y arrêta avec la conviction qu'il ne se trompait pas. À partir de ce moment, chez lui, la colère et l'angoisse cédèrent le pas à l'anxiété. Il ne pouvait s'expliquer le retard que mettait Roger à arriver en compagnie du docteur. Et autant il avait jusque-là redouté le moment de l'entrevue, autant il s'impatientait à présent de ce retard inexpliqué. À plusieurs reprises, son attention avait été attirée par le bruit de pas dans l'antichambre et il s'était retenu pour ne pas ouvrir brusquement la porte de son cabinet afin de s'informer si le chevalier n'était pas arrivé. Mais le retard se prolongeant, il voulut se donner une occupation qui trompa son impatience. Il s'était assis devant son secrétaire et bouleversait les papiers qui se trouvaient à portée de sa main. Puis, fiévreusement, il fouillait dans le cartonnier, au hasard, éparpillant les pièces qui y avaient été enfermées. C'est en mettant ainsi tout en désordre dans son secrétaire qu'il aperçut sous un amas de lettres ouvertes le livre des archives de la police. Il éprouva aussitôt une violente douleur au cœur. Une sensation de froid lui glaça les veines, comme si tout son sang se fût instantanément figé. Un nuage passa sur ses yeux. Sa main tremblante avait ouvert le livre. Il en tournait machinalement les feuilles sans regarder. Que lui importait ce qui pouvait se trouver encore écrit sur ces pages? Bientôt, le livre demeura grand ouvert à l'endroit où Roger de Vaudrey avait arraché un feuillet. La place en était marquée par un fragment de papier un peu plus grand que la marge, car le mot « famille » s'y lisait en tête de la page. Et plus bas, une moitié de lettres majuscules qui avait été incontestablement un D. Monsieur de Lignières passa rapidement la main sur son front brûlant et un cri étouffé s'étrangla dans sa gorge. Cri de rage impuissante comme en arrache les tortures de la jalousie. La commotion était bien la plus violente qu'il eût eu à subir depuis le jour où Roger s'était redressé devant lui pour lui lancer à la face cette phrase accablante. « Souvenez-vous que ce n'est pas seulement son secret à elle, c'est aussi votre dignité, c'est le respect de vous-même, c'est votre propre honneur que je défends contre vous. » Son honneur, ce mot lui revenait à la mémoire, brûlant son cerveau. Ce mot tintait encore à ses oreilles comme la preuve d'une faute, d'un crime. L'exaspération qu'il avait eu tant de peine à apaiser en lui dominait maintenant ses résolutions généreuses. Il n'y avait plus à demander à cet esprit troublé de juger sainement la situation. Il ne fallait pas attendre de ce cœur mordu au vif par la jalousie de prendre en pitié les infortunes et les souffrances de qui que ce fût. M. de Lignières avait voulu oublier, et le hasard s'y était opposé en plaçant sous la main du mari le livre où avait été inscrite l'histoire secrète de la femme. C'en était trop pour cette nature impressionnable et accessible aux violences, aux terribles emportements, comme aussi aux élans de générosité, aux bienveillances inattendues. Le lieutenant de police passait en ce moment par une épreuve plus grande encore que toutes celles qu'il avait subies depuis la scène avec Roger. Et sous l'influence de cette violence du sang se portant au cerveau, il regrettait d'avoir donné l'ordre de faire comparaître devant lui le chevalier de Vaudrey aussitôt l'arrivée de celui-ci. Maintenant, il savait ne pouvoir plus se contenir et avait peur de se laisser emporter au-delà des bornes de la colère et du ressentiment justifié. Il le comprenait si bien que déjà il avait brusquement repoussé le fauteuil dans lequel il était assis et se disposait à sonner l'huissier lorsqu'il fut arrêté dans ce mouvement par deux petits coups frappés discrètement à la porte du couloir, donnant accès dans les appartements particuliers du comte et de la comtesse. Un domestique entra, annonçant « Monsieur le chevalier de Vaudrey ». Contrairement à ce qu'avait espéré M. de Lignières, qui attendait son neveu dans le cabinet officiel du magistrat, Roger avait pénétré dans l'hôtel par la porte d'honneur et y s'était présenté, ainsi qu'il en avait l'habitude, dans l'antichambre des appartements de son oncle. Cette circonstance donna à M. de Lignières le temps de se remettre de l'impression de colère qu'il éprouvait. Il hésita une seconde, puis s'adressant au domestique, « Priez le chevalier de vouloir bien m'attendre au salon. » Et comme le valet s'inclinait pour sortir, M. de Lignières ajouta « Faites demander à Madame la Comtesse si elle veut bien recevoir son neveu. » Le domestique sortit. Alors, M. de Lignières poussa un soupir de soulagement. Il avait gagné un peu de temps pour se retrouver tel qu'il devait être en présence de son neveu. Le parent sévère, qui fait taire son ressentiment pour ne pas provoquer une aggravation menaçante dans l'état d'une malade également chère à tous deux. Aussi prit-il le temps de se composer un visage froid, impassible, qui frapperait le chevalier et lui dirait par quel effort il avait obtenu cette apparence de calme. Ce ne fut donc qu'au bout de plusieurs minutes qu'il se dirigea lentement vers le salon où l'attendait Roger. Il demeura encore quelques instants avant de se décider, puis ouvrant brusquement la porte, il se trouva en présence de son neveu. Comment le chevalier de Vaudrey, que le médecin de la comtesse avait pris soin d'aller lui-même chercher à l'auberge du faubourg Saint-Honoré, se présentait-il tout seul à l'hôtel de Lignières? Voilà ce qui s'était passé entre le jeune homme et le vieux praticien lorsque ces deux hommes s'étaient trouvés en tête-à-tête dans le carrosse. On sait déjà qu'au milieu du trajet, Roger avait obtenu de son compagnon l'autorisation d'aller changer de vêtements. M. Hébert avait compris que le chevalier ne devait pas en effet se présenter sous un déguisement devant son oncle. Avant tout, il devait faire oublier autant que possible ce qui pourrait rappeler la scène d'évasion. Le véhicule avait donc pris la direction de l'île Saint-Louis et Roger mit pied à terre devant la porte du petit hôtel qu'il habitait. Le docteur Hébert l'y avait suivi. Et la conversation s'engagea pendant que le chevalier, dissimulé derrière un paravent, se mettait en devoir de changer de vêtements. « Vous avez voulu, mon cher docteur, dit-il, tenter un rapprochement que vous reconnaîtrez inévitable, lorsque vous aurez pu juger par vous-même de l'état de la comtesse. Aussi n'ai-je pas hésité. C'est bien, dit le médecin, et plaise à Dieu que cette entrevue produise le résultat que j'en attends. Le chevalier regarda son interlocuteur comme pour s'informer du genre d'effet qu'il avait voulu obtenir. Mais déjà, il avait le pressentiment qu'il s'agissait des deux pauvres orphelines que le charitable docteur avait recueillies. Connaissant la bienveillance de M. Hébert, Roger ne pouvait douter qu'il ne fît toutes les démarches possibles pour intéresser des personnes haut placées au sort des pauvres jeunes filles échappées par miracle aux plus cruelles machinations. Mais le jeune homme eût voulu entendre de la bouche même du généreux médecin ce que celui-ci espérait. Quant à interroger directement, c'était, pensa-t-il, témoigner d'une impatience que M. Hébert désapprouverait sans doute. Donc, Roger attendit que son compagnon s'expliquât. « Je me suis imposé une tâche que je tiens à accomplir, » dit le docteur. « Il s'agit de réhabiliter... Henriette ?» interrompit le chevalier. « Oui, la prisonnière de la Salpêtrière. » Et, ajouta-t-il, « en agissant ainsi, j'ai un double but, sauver l'honneur de celle que je sais innocente et adoucir autant que possible le sort d'une autre affligée qui s'est dévouée avec une admirable grandeur d'âme. » « Ah oui, bien admirable, en effet !» Et se souvenant, le chevalier poursuivit avec animation. « Je l'ai vue, cette pauvre femme. J'ai pu juger de la bonté de son cœur et de son âme compatissante. J'ai pu obtenir d'elle, au moment où le navire allait quitter le port, qu'elle me dise où je pourrais retrouver celle pour laquelle elle se sacrifiait. Et c'est par elle ? C'est par elle que j'ai su la part que vous aviez prise à la délivrance de ma bien-aimée. Ah, docteur, si vous parvenez à faire pour Mademoiselle Gérard ce que médite la générosité de votre cœur, elle vous sera un gré infini, et sa reconnaissance sera double si du même coup vous obtenez une amélioration à la triste situation de Marianne. Oui, Marianne Vautier, c'est ainsi qu'elle se nomme. Je me rappelle ce nom que j'ai dû prononcer bien des fois devant de hauts personnages avant d'obtenir la grâce de cette infortunée. Et cette grâce, elle s'en est servie pour rendre la liberté à celle qui n'avait point imploré la sienne, puisqu'elle était innocente. M. Hébert, pendant cette conversation, était en apparence fort calme, mais intérieurement, l'émotion se donnait libre cours dans son cœur. Il ne se dissimulait pas qu'il allait jouer une bien grosse partie contre un adversaire terriblement emporté et violent. Aussi n'était-il pas fâché de mettre quelques chances de son côté en s'assurant par avance les bonnes dispositions du comte de Lignières. Certes, l'entrevue entre l'oncle et le neveu pouvait avoir une certaine influence sur l'humeur du magistrat. Tout dépendait de la façon dont Roger prendrait les remontrances de M. de Lignières, si toutefois ces remontrances se produisaient. Une attitude respectueuse, sinon humble, chez le chevalier, devait trouver le comte plus disposé à écouter. Aussi le docteur jugea-t-il indispensable de renouveler les recommandations qu'il lui avait déjà faites. « Tout dépend, fit-il, de la soumission. » Le mot fit dresser la tête à Roger. « Oui, reprit le médecin, c'est bien soumission que j'ai voulu dire. Quelque dur que cela puisse vous paraître, mon jeune ami, il vous faudra prendre votre parti d'une soumission apparente et momentanée. » Le chevalier était devenu sombre. Déjà presque habillé, il sortit de derrière le paravent, dont il repoussa les feuilles avec un mouvement de colère. En lui voyant le visage contracté et les sourcils froncés, M. Hébert prononça d'un ton sérieux. « Je comprends l'impression désagréable que vous éprouvez. Je reconnais que vous avez le droit de manifester, ici, devant moi, votre mécontentement. Mais quelque justifiée que puisse être cette impression, elle devra, à mon avis, disparaître dès que vous serez en présence de M. de Lignières. Le docteur cherchait évidemment à préparer le jeune homme à la scène qu'il redoutait pour lui. Pour cela, il fallait prendre des voies détournées afin de ne pas trop irriter Roger. Il poursuivit toujours sur le même ton bonhomme. « Voudriez-vous, mon cher Roger, compromettre, dès le début, le succès de la démarche que je vais faire et à laquelle je désire associer une autre personne ?» Et sans attendre que le chevalier eût répondu. « Non, assurément, continua-t-il, je suis au contraire bien persuadé que vous ne demandez qu'à m'aider de tout votre pouvoir. Alors, la meilleure preuve que j'attends de vos bonnes dispositions, c'est que vous feindrez de recevoir, sans colère, la leçon qu'on voudra très probablement vous donner. Ensuite, vous quitterez, le moins possible du moins, l'hôtel de Lignières. Il est indispensable que vous soyez presque sans cesse auprès de notre cher malade. » Roger était ému plus qu'on ne peut le supposer, chaque fois que le médecin faisait valoir à ses yeux l'intérêt de la santé de Diane. Que pouvait-il répondre en la circonstance présente? Pouvait-il refuser, alors même qu'on réclamait de lui un sacrifice contre lequel tout son sang se révoltait? Le chevalier de Vaudrey courba donc la tête, et un long soupir s'exhala de sa poitrine. C'était l'acceptation tacite de tout ce que voulait le docteur. Aussi, M. Hébert continua-t-il ses conseils. Puis la conversation tourna insensiblement pour revenir sur le compte des deux orphelines. C'était pour le docteur une façon de persuader mieux encore Roger qui devait tout accepter afin de rendre plus efficace l'intervention en faveur d'Henriette. « Allons, s'écria le praticien, enchanté du résultat obtenu. Vous voilà disposé à avoir le courage nécessaire. Je suis persuadé que vous ne faillirez pas à la promesse que vous m'avez faite, et je crois que vous pouvez vous rendre seul auprès du comte. » Le chevalier eut un tressaillement. « Je compte absolument sur vous, sur votre prudence. » Et il ajouta, pour décider tout à fait le jeune homme, « Pendant ce temps, j'irai de mon côté préparer nos deux jeunes amis à une démarche bien délicate aussi. » « Une démarche auprès de M. de Lignières ?»« Précisément. » Le chevalier eût bien voulu interroger encore, mais M. Hébert ne lui en donna pas le temps. « Je pars, » dit-il, « avec la confiance absolue que vous saurez vous présenter comme il convient devant le comte de Lignières. » Et, tendant la main au jeune homme, « Au revoir, donc. » Roger avait accompagné son hôte jusqu'à la porte. Puis, revenant dans la chambre, il acheva sa toilette. Désormais, il n'hésiterait plus à accomplir ce qu'il considérait comme une mission sacrée. Le docteur lui avait laissé le carrosse. Il y monta en donnant au cocher l'adresse du lieutenant de police. Pendant tout le trajet, il demeura absorbé dans une série de réflexions dans lesquelles la comtesse et Henriette se représentaient à son esprit ainsi qu'il les avait vues dans la chambre de l'ouvrière. Il allait retrouver l'une d'elles après quelques jours d'une séparation qui avait eu les plus graves conséquences sur une nature si impressionnable et sur une santé si gravement compromise. En ce moment, il se reprochait amèrement la part qui lui incombait dans l'aggravation de la maladie de la comtesse. Et toutes ces idées qui lui arrivaient, comme autant de remords, rendaient plus inébranlable encore la résolution qu'il avait prise de suivre à la lettre les conseils et les recommandations du docteur. Lorsque la voiture s'arrêta enfin à la porte de l'hôtel de la lieutenance de police, Roger sursauta, comme s'il se fût éveillé d'un profond sommeil. Il était ramené brusquement à la réalité de la situation. Encore quelques minutes, et il allait se trouver en présence de l'homme froid et sévère dont il avait à craindre les remontrances et la colère. Au moment de mettre pied à terre, il réfléchit qu'il vaudrait mieux ne pas se présenter dans les bureaux officiels du magistrat. Et connaissant de longue date les êtres, il alla directement à l'antichambre des appartements particuliers du comte. « Annoncez-moi à mon oncle, » dit-il au domestique qui se trouvait de service. Et il attendit. Le docteur Hébert avait décidé que la journée serait complète. Il voulait frapper un grand coup, profitant de ce que le lieutenant de police aurait au préalable obtenu une quasi-satisfaction de la part du chevalier. Du reste, il avait, croyait-il, admirablement préparé le terrain pour le combat qu'il se proposait de livrer. Il comptait beaucoup, disons-le, sur le bon sens, plus encore que sur le bon cœur du magistrat. Puis, n'avait-il pas déjà combiné une scène dont il espérait merveille et dans laquelle il mettrait la conscience du magistrat à l'épreuve, persuadé que celui dont c'était le droit de juger sévèrement les autres ne pourrait avoir pour soi-même de blâmable complaisance lorsqu'il s'agirait de réparer une erreur ou mieux encore une injustice ordonnée par lui. Maintenant, il fallait prendre ses dispositions pour arriver juste au moment où la colère du comte aurait disparu devant l'attitude soumise du chevalier de Vaudrey. Arrivé au moment propice, tout était là. Mais ne devait-il pas auparavant préparer les acteurs de la scène qu'il avait imaginée et leur inculquer mot à mot les paroles qu'il leur faudrait prononcer? Or, jusqu'à ce moment, ni l'une ni l'autre des deux orphelines ne se doutaient du rôle qu'on leur avait réservé. M. Hébert avait laissé s'apaiser chez les deux jeunes filles qui s'étaient retrouvées les premières émotions. Il saurait profiter, se disait-il, de la première accalmie dans ces cœurs si troublés encore par les tempêtes récentes pour leur faire part de son projet et de ses espérances. Quant à la soumission des deux jeunes filles à ses désirs, il n'en avait pas douté un seul instant. D'une part, Henriette, qui lui devait en grande partie sa liberté, ne pourrait manquer de vouloir témoigner de sa reconnaissance. En outre, il possédait le secret de son cœur. Il agirait en conséquence, faisant intervenir la pensée de Roger si la jeune fille paraissait vouloir hésiter à tenter la démarche qu'il lui indiquerait. Quant à Louise, c'était tout autre chose. L'aveugle, qui ignorait l'amour partagé du chevalier de Vaudrey pour sa sœur Henriette, ne pouvait être mise au courant des motifs qui avaient fait emprisonner une innocente. La pauvre enfant, déjà tant éprouvée pour son propre compte, avait besoin des plus grands ménagements. L'instruire des infortunes sans nom de sa compagne, c'eût été risqué de porter une terrible atteinte à son esprit déjà si troublé. Pour arriver à lui faire remplir le rôle qu'il lui avait attribué dans sa combinaison, le docteur devait s'y prendre habilement, tout en ménageant la susceptibilité bien légitime de Henriette. Mais, disons-le tout de suite, quelque clairvoyant qu'il fût, le docteur, ignorant les liens sacrés qui unissaient Louise à la comtesse de Lignières, n'avait pu soupçonner la profonde influence que devait exercer la vue de la jeune aveugle sur la malade. En se décidant à user de l'intervention de Louise, il se réservait uniquement de lui faire plaider la cause de l'innocente auprès du magistrat. Il avait trouvé que ce serait bien là l'avocat qui saurait attendrir la sévérité du lieutenant de police et ramener en lui des sentiments de générosité refoulés par une aveugle colère. Le jour où le docteur devait entreprendre la réhabilitation d'Henriette, il ne se doutait pas qu'il soulèverait un coin du voile qui cachait la vérité sur la naissance de la pauvre Louise. Il se fût bien gardé sans cela de se servir de l'intermédiaire de la jeune fille. Il eût cherché un autre moyen d'obtenir du lieutenant de police le pardon d'Henriette Gérard. Aussi, dans son ignorance du mystère qui enveloppait la naissance de Louise, le docteur Hébert se rendit-il auprès des deux orphelines sans la moindre hésitation pour leur dire que le moment d'agir était arrivé et leur indiquer ce qu'il attendait de chacune d'elles. Tandis que le digne homme se dirigeait vers son hôtel, Henriette et Louise se trouvaient réunies dans la chambre qu'on leur avait donnée et qui, on le sait, se trouvait contiguë au cabinet de travail du médecin. Celui-ci avait voulu en effet avoir ses deux protégées tout près de lui, comme eût fait le plus affectueux des pères. Le vieux célibataire s'était du reste bien vite fait à ce rôle, si nouveau pour lui, de père de famille. Chaque fois qu'il était obligé de sortir, soit pour ses visites, soit pour se rendre à l'hôpital, dont il était le médecin en chef, il lui tardait de revenir auprès de ses chères petites. Et il les interrogeait paternellement, espérant trouver chez elles une amélioration de plus en plus grande dans l'état de leur esprit. C'est surtout pour Henriette qu'il redoutait l'effet de commotion nouvelle. Il savait que les douloureuses épreuves qu'elle avait subies avaient porté en plein cœur et que la victime se ressentirait, longtemps encore, des souffrances auxquelles on l'avait condamnée. À partir du jour où il avait résolu d'obtenir ce qu'il appelait la réhabilitation d'Henriette, l'excellent homme avait laissé entendre à la jeune fille qu'il lui demanderait de faire, de compte à demi avec lui, une démarche courageuse. Interrogé doucement par Henriette, il avait laissé entrevoir à celle-ci qu'un jour ou l'autre, le lieutenant général de police pourrait apprendre la vérité sur la substitution qui avait rendu la liberté à elle, innocente à la vérité, mais au détriment d'une coupable qui, elle, avait obtenu sa grâce officiellement. À cette pensée qu'elle pourrait, à un moment donné, retomber dans les griffes de la police et se voir traîner de nouveau au milieu de voleuses et des autres coupables de la salpêtrière, Henriette s'affolait. Mais elle n'osait laisser percer ses impressions ni témoigner ouvertement des appréhensions qui obsédaient son âme. Elle pensait qu'en tout cas, la démarche dont on lui avait laissé comprendre la possibilité ne serait pas aussi imminente qu'elle l'avait supposée tout d'abord. L'arrivée du chevalier de Vaudreuil à l'hôtel du docteur Hébert était une puissante diversion faite dans son esprit. La vue de Roger avait produit en elle une impression profonde, ravivant à la fois tout ce qu'elle avait souffert et tout ce qu'elle avait espéré. Elle se disait que celui qui avait promis de faire tomber tous les obstacles qui pourraient s'opposer à leur union n'avait pas oublié la parole jurée et qu'il venait le lui prouver. C'était un soulagement inespéré pour son cœur, mais en même temps, elle était obligée de s'avouer que, plus que jamais, il y avait d'insurmontables obstacles entre elle et lui. Ce jour où elle avait aperçu Roger dans la rue, elle n'avait pas résisté à lui montrer Louise, comme pour lui dire que désormais elle avait atteint le seul but qu'elle avait espéré, et que l'aveugle retrouvée, elle n'avait plus qu'à lui consacrer entièrement son existence, à l'exclusion de toute autre préoccupation du cœur. Elle avait ensuite attendu de revoir le docteur Hébert, espérant qu'il lui parlerait du chevalier. Elle eût voulu savoir comment Roger avait pu s'évader de la Bastille, ce qu'il avait fait ensuite, une fois libre, pour la retrouver. Mais le médecin fut absolument discret sur ce chapitre, et Henriette dut se résigner à tout ignorer pour le moment. Depuis, M. Hébert n'avait fait que de rares apparitions dans la chambre des orphelines, et Henriette n'avait pas été sans remarquer que son protecteur semblait très préoccupé. Contrairement à ce qu'il avait fait jusque-là, le bon docteur ne s'était pas informé de l'état de santé de ses nouvelles pensionnaires. Cependant, ni l'une ni l'autre de celles-ci ne songea à mettre la chose sur le compte de l'indifférence. Henriette se dit même qu'il allait évidemment se passer, pour elle, quelque chose de grave, puisque le docteur en était lui-même si impressionné d'avance. Ce qui va suivre devait donner complètement raison à la perspicacité et au pressentiment de la jeune fille. M. Hébert l'avait fait appeler dans son cabinet et lui dit « Ce que j'ai à vous communiquer, mon enfant, ne doit être entendu par personne. » Et s'interrompant « Je suppose que vous n'avez pas fait à votre compagne de confidence concernant… »« Oh non, non !» s'écria Henriette, rougissant d'avoir compris tout de suite à quel genre de confidence le médecin avait voulu faire allusion. « C'est bien, et je ne m'étais pas trompée. En ce cas, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait venir ici. » J'ai à vous parler du chevalier de Vaudreuil et de son oncle, monsieur le comte de Lignières. » En entendant prononcer ce dernier nom, la jeune fille avait tressailli, et ses joues, naguère encore enluminées, étaient à présent envahies par une subite pâleur. Monsieur Hébert ne lui donna pas le temps de s'abandonner à son émotion. « Vous avez dû comprendre, mon enfant, » fit-il d'un ton paternel, « qu'en vous accordant chez moi l'hospitalité, j'avais une intention autre que celle de mettre à l'abri des poursuites d'agents de police celle qui était, par miracle, sortie de la salpêtrière. Puis prenant dans les siennes les mains de la jeune fille, « Ne tremblez pas ainsi, dit-il, car j'espère bien que nous allons réussir dans ce que je désire que nous tentions ensemble. Prêtez-moi donc toute votre attention afin de bien comprendre ce que j'attends de vous. » Henriette, les yeux baissés, attendit que le docteur s'expliquât. Monsieur Hébert semblait chercher les expressions à employer pour amener doucement et par gradation la jeune fille à ne pas trop s'épouvanter de ce qu'elle allait entendre. « Mon enfant, » commença-t-il avec un peu d'hésitation dans la voix, « votre situation deviendrait bientôt intolérable si nous ne trouvions le moyen de vous faire obtenir régulièrement et officiellement la grâce dont vous avez bénéficié un peu par surprise. » À ce mot de grâce, Henriette avait relevé la tête. « Mais qu'ai-je donc fait, mon Dieu ? Pour implorer une grâce? Suis-je une criminelle? Moi? Moi? » Le docteur hocha tristement la tête. Criminelle ou non, vous avez été condamnée. Condamnée? Par qui, monsieur? Je vous en supplie, dites-le-moi. Car je n'ai comparu devant aucun juge. On ne m'a pas conduite devant un tribunal. On m'a enlevée de vive force pour me mener à la salpêtrière. Est-il donc permis de condamner quelqu'un sans l'écouter? Sans lui permettre de se défendre ? » Dans son bon sens naturel, Henriette se rendait bien compte qu'elle n'avait pas été régulièrement jugée. Et elle se révoltait au souvenir de l'acte de violence dont elle avait été victime. Frappé de ce raisonnement si juste, le médecin se recueillit pendant quelques instants. Il ne pouvait se laisser ébranler dans sa résolution, mais il n'en éprouvait pas moins une impression pénible à amener ainsi l'innocente à implorer un pardon, à aller s'humilier devant l'homme qui avait si cruellement abusé d'un pouvoir discrétionnaire. Henriette attendit, frémissante, indignée d'avoir été traitée comme les filles pour lesquelles il n'est point besoin de jugement et qu'on arrête et incarcère de plein droit. Elle avait compris enfin ce que le docteur hésitait à lui dire, et forte de son honnêteté, elle relevait la tête. M. Hébert trouva cependant un moyen de persuasion qui devait tout concilier. « Mon enfant, fit-il avec bonté, ce que nous allons tenter, ce n'est pas d'obtenir votre grâce en vous obligeant à vous humilier devant un magistrat tout-puissant. Je ne prétends pas que vous fassiez amende honorable pour une faute que vous n'avez pas commise. Ce que j'attends de vous, c'est que vous ne soyez plus pour un oncle hérité la femme qui a voulu mettre à profit, dans le but de se faire épouser, l'amour irrésistible qu'elle avait inspiré. Dieu m'est témoin, monsieur, que j'avais repoussé cet amour, que j'ai essayé de me faire oublier par celui qui me pressait de l'accepter pour époux, que j'ai fait appel au dévouement même dont il me donnait chaque jour une preuve nouvelle, pour qu'il se contentât de tout ce que, honnêtement, sincèrement, je pouvais lui offrir en échange, ma reconnaissance éternelle. Oui, monsieur, je me suis efforcée de ramener ce gentilhomme au sentiment de ses devoirs envers sa famille. Je l'ai prié, supplié de me permettre de conserver ma conscience pure, car elle ne pouvait l'être du moment où j'avais la persuasion que pour tenir la promesse qu'il me faisait, sans que je l'aie demandé, le chevalier de Vaudrey allait se mettre en guerre ouverte avec sa famille. « je le sais !» interrompit M. Hébert en dissimulant mal sa pitié pour l'infortune si grande de la jeune fille. « Ah, cette parole me console, monsieur, et me rassure. J'en augure que vous ne voudriez pas m'obliger à une démarche dont je pourrais revenir humiliée. » « Bien certainement non, mon enfant. Aussi, cette assurance et la confiance que vous avez en moi doivent vous engager à faire ce que j'ai décidé qu'il était utile d'accomplir. » Et profitant de la bonne impression que ces paroles avaient produite, il s'empressa d'ajouter. « Ce qui est devenu urgent, c'est que monsieur le comte de Lignières n'ait plus le moindre doute sur ce que vous avez fait pour éloigner son neveu de vous. Et le seul moyen... » Henriette leva les yeux pleins de tristesse sur le médecin, comme pour demander quel était ce moyen. « Le moyen, continua M. Hébert, c'est d'aller trouver l'oncle du chevalier et de lui expliquer. « Moi ? Vous-même, lui expliquer tout ce qui s'est passé entre vous et Roger, tout, les promesses du gentilhomme comme les résistances de l'ouvrière. Il faut que vous lui disiez cette lutte pendant laquelle le chevalier vous jurait de surmonter tous les obstacles pour devenir votre mari. Cette scène, enfin, à la suite de laquelle eut lieu votre arrestation. » Henriette eut un geste de désespoir. « Il ne me croira pas, monsieur, » s'écria-t-elle. « Il ne voudra pas me croire. Vous trouverez des expressions pour le convaincre. Et tenez, ces larmes qui perlent à vos paupières, cette émotion qui vous agite et fait trembler votre voix, la pâleur qui envahit vos traits et ces lèvres qui frémissent à chaque mot qui s'envole de votre bouche. Tout cela n'atteste-t-il pas que vous ne pouvez être qu'une innocente et honnête fille, digne de la considération, de l'estime des honnêtes gens? Et je vous le dis, mon enfant, le comte est un parfait juge de ces choses-là. Lorsqu'il vous aura vu, lorsque vous lui aurez parlé, il vous croira. » Henriette tressaillait sous une impression nerveuse qu'elle ne parvenait plus à surmonter. Elle avait été trop loin de s'attendre à cette scène pour qu'il lui fût possible de supporter une plus longue lutte, de laquelle elle ne sortirait, pensait-elle, qu'en accédant au désir de son protecteur. Elle ne se sentait pas capable de refuser à l'homme qui, après l'avoir sauvée de la honte, l'avait recueillie, l'obéissance qu'on doit à un père. « Eh bien, fit-elle avec un soupir, je vais vous suivre, monsieur, puisque vous jugez qu'il faut que je tente cette démarche. » Le docteur prit la main de la jeune fille dans les siennes pour encourager et remercier Henriette. En agissant ainsi, M. Hébert avait l'intention de préparer la pauvre affligée à une dernière épreuve. Jusque-là, en effet, il n'avait été question pour Henriette que de prouver au comte de Lignières qu'elle repoussait formellement les offres du chevalier de Vaudrey. Cependant, il y avait un autre danger à conjurer, et tellement réel celui-là que ce fut la jeune fille elle-même qui en eut le sentiment et s'écria. « Ah, monsieur, n'avez-vous pas réfléchi qu'en me présentant devant monsieur le lieutenant de police, celui-ci me reconnaîtrait aussitôt, qu'il verrait que je n'ai pas été comprise dans le convoi des déportés, et qu'il voudra savoir comment j'ai pu me soustraire à la peine qu'il avait voulu m'infliger. Oui, mon enfant, j'ai réfléchi à tout cela. Je savais bien, du reste, que vous me feriez tôt ou tard l'objection que vous venez de formuler. Aussi, continua-t-il, je suis d'avis que, avant tout, il faudra mettre M. de Lignières dans l'impossibilité de châtier celle qui, une première fois, a pu échapper à sa colère. Mais par quel moyen, mon Dieu ? En mettant le magistrat dans l'impossibilité de revenir sur une promesse qu'il aura faite, sur une parole qu'il aura donnée. Surprise de cette réponse, Henriette interrogea des yeux. « Écoutez-moi, mon enfant, » reprit M. Hébert, « pour obtenir le résultat que nous espérons, j'ai trouvé, je crois, le meilleur moyen. Je veux d'abord obtenir la grâce de la prétendue coupable que vous êtes encore en ce moment. J'aurai recours dans ce but à une personne qui plaidera votre cause avant que vous ne paraissiez devant le lieutenant de police. Cette personne implorera le pardon d'une détenue de la Salpêtrière. Elle saura, je n'en doute pas, obtenir cette grâce. Monsieur le lieutenant de police engagera sa parole, et alors... » Henriette ne put s'empêcher de frissonner. « Alors, poursuivit le docteur en s'animant, je crois pouvoir affirmer que lorsqu'il saura que c'est de vous qu'il s'agit, le magistrat ne reviendra pas sur cette parole. » Puis persuadé que la partie était décidément gagnée, il ajouta, « Laissez-moi faire, j'ai bien réfléchi, tout calculé. Ayez confiance, mon enfant. » Il s'agissait maintenant de partir au plus tôt. M. Hébert dit à sa protégée de se préparer à l'accompagner. Mais au moment de sortir pour aller embrasser Louise, la jeune fille se tourna vers le médecin en disant « Mais cette personne qui doit se joindre à nous pour implorer mon pardon, c'est à vous de la prévenir du rôle qu'on lui destine, de la renseigner sur le sujet, afin qu'elle puisse être éloquente dans sa prière. » « Comment, c'est moi ?»« Oui, mon enfant, car celle que j'ai choisie, c'est votre sœur bien-aimée. » « Louise ? » ?»« Oui, Louise, la chère aveugle qui devra obtenir la grâce d'Henriette Gérard. »« Elle ?» murmura Henriette. Et elle ajouta d'une voix mourante. « Elle ignore tout. C'est maintenant votre tâche de la mettre au courant. »« Au courant de ce que j'ai souffert ?»« Pour l'amour de celui qui ne pouvait devenir votre mari. » « Oh, mon Dieu !» s'exclama la jeune fille en se couvrant les yeux de ses mains tremblantes. « Moi qui voulais lui laisser ignorer. » « Votre amour, mon enfant, est de ceux que l'on peut avouer, car il a été pur. Il a été insensé, puisque je n'ai pas su le cacher si bien au fond de mon cœur que celui qui en était l'objet ne l'ait lu dans l'émotion que je ne pouvais dissimuler, lorsqu'il me pressait de croire à sa sincérité, lorsqu'il me jurait que jamais puissance humaine ne parviendrait à nous séparer si je voulais devenir sa femme. Il me faudra lui avouer à cet ange que pendant qu'elle souffrait loin de moi, pendant que j'ignorais ce qu'elle était devenue et si jamais je la reverrais, il faudra lui avouer que les transes de mon âme étaient partagées entre la douleur que j'éprouvais de sa disparition et la perspective des souffrances que mon cœur subissait de cet amour qui venait d'y naître et l'envahissait tout entier. Il faudra que je lui fasse cet aveu cruel qu'une autre pensée que la sienne avait pu germer dans mon esprit. Oh, je ne pourrai jamais imposer cette douleur à son affection, qui ne s'est pas démentie une seconde depuis le temps où nous partagions le même berceau et que ma mère nous nourrissait toutes deux de ce lait qui nous a faites sœurs. Non, monsieur, ce serait pour moi une épreuve au-dessus de mes forces. » Puis, une réaction se produisant dans l'état de son esprit, elle s'écria avec une sorte d'exaltation inspirée. « Louise, Louise, c'est donc par toi que je devais protéger, pauvre infortunée, c'est donc par toi que je serais secourue. C'est toi que je m'étais donné pour mission de guider dans la vie, de protéger, de soutenir. Cher ange, que Dieu nous avait envoyé en un jour d'effroyable détresse et de désespoir sans nom, c'est de toi que je dois attendre, que je vais obtenir, peut-être, le secours inespéré que la Providence envoie aux affligés. » Le docteur avait fait un rapide mouvement de retraite vers la portière qui dissimulait l'entrée de la bibliothèque placée tout au fond du cabinet. D'un brusque mouvement, il écarta la tenture en s'exclamant avec force. « Et ce secours, Louise ne vous le refusera pas, mon enfant, car elle sait maintenant toute la vérité, que vous ne vouliez pas, que vous n'osiez pas lui révéler. Elle sait tout, tout, et la voici. » À ce moment, l'aveugle, les deux bras en avant, sortait de la cachette où l'avait placé le docteur avant de faire venir Henriette auprès de lui. Un double cri se fit entendre, poussé à la fois par les deux orphelines. Mais déjà Henriette serrait l'aveugle contre sa poitrine inondant de larmes ses beaux cheveux blonds et son front si pur. Quant à Louise, tremblante d'émotion, elle tâtait de ses mains d'aveugle la tête, le visage, les bras de sa compagne. Et de cette voix que le bonheur saccade, elle lui dit en cherchant à l'entraîner. « Viens, viens, ma sœur, allons chez celui que je dois implorer. Allons vite, bien vite, je t'en supplie, car j'ai hâte de lui dire tout ce que Dieu m'inspirera pour obtenir ta grâce. Viens, mon Henriette, ne pleure plus. Viens, je suis courageuse, moi, je n'ai pas de larmes. » Et se tournant instinctivement vers Monsieur Hébert, « Oh, monsieur, puisque vous avez si bien deviné que j'allais accepter avec joie le rôle que vous me réserviez, ne perdons plus une minute, courons chez le lieutenant de police. » S'arrachant alors à l'étreinte d'Henriette, l'aveugle se mit à faire quelques pas, comme si une lumière mystérieuse eût éclairé ses prunelles éteintes, pour la guider. Lorsque Monsieur de Lignières, en ouvrant la porte du salon, se trouva en présence du chevalier de Vaudreix, il y eut un moment de terrible lutte chez l'homme en qui le parent et le magistrat avaient été également mis en échec. Pendant une seconde, Roger put croire qu'en dépit des efforts qu'il faisait pour la retenir, la colère du comte allait éclater, furieuse, déchaînée, terrible. Sur ce visage, auquel il voulait conserver tout le calme et l'austérité du magistrat, jaillissait en contractions nerveuses réprimée aussitôt par une force de volonté puissante, les exaspérations du chef de famille méconnu dans son autorité. Dans ce corps qu'il était parvenu à maintenir immobile et comme rivé sur place, le sang devait avoir d'effroyables bouillonnements, l'âme devait terriblement souffrir de toutes ces violences contenues. Au bout de cette mortelle minute qui suivit son apparition, le lieutenant de police s'était vaincu lui-même, au point de pouvoir dire, avec une expression indéfinissable de calme et de hauteur. J'ai fait demander à la comtesse si elle voulait bien recevoir son neveu. Roger s'était tenu à quelques pas, légèrement incliné, et prêt à accepter sans défense un premier choc de la colère du comte. En entendant la phrase prononcée avec une lenteur calculée, il s'approcha. Et osant regarder en face celui qui, il en avait le sentiment, venait de remporter une si grande victoire sur les ressentiments qui grondaient en lui, il répondit. « Je vous remercie, monsieur, d'avoir deviné ma pensée. En rentrant dans cet hôtel, je n'avais qu'un désir, revoir une personne que j'aime comme j'aimerais ma mère, l'embrasser et partir. » Monsieur de Lignières était désormais assez armé contre lui-même pour ne rien relever dans les répliques de Roger. Il eut seulement, pour le jeune homme, un regard froidement sévère. Et de cette voix, toujours maintenue dans une lenteur voulue, « Ce n'est pas ma volonté seule qui vous appelle ici, » dit-il, et désignant la porte ouvrant sur la chambre à coucher de la comtesse, il ajouta. « Là est une infortunée qui vous attend depuis plusieurs jours et des nuits passées dans de cruelles souffrances. » Roger avait bien été prévenu par le docteur Hébert du danger que courait la comtesse. Mais en entendant M. de Lignières parler comme il venait de le faire, sacrifiant sa colère et sa vengeance à des considérations de compassion pour la malade, il comprit que le médecin était peut-être resté au-dessous de la vérité. « Vous m'effrayez, monsieur, » fit-il en s'approchant de son interlocuteur. « Et quoi, la comtesse ?» M. de Lignières répondit aussitôt à cette interrogation qui lui procurait l'occasion de laisser percer son ressentiment. « Depuis l'instant, » prononça-t-il en assourdissant sa voix, « où je l'ai trouvée chez cette personne à laquelle vous sacrifiez tous vos devoirs et les plus saintes affections, depuis cet instant, une crise nouvelle, une crise terrible s'est déclarée dans la maladie de la comtesse. » Le comte lança un regard chargé d'éclairs sur le visage inquiet de Roger. Puis il continua. La fièvre et le délire se sont emparés d'elle. D'étranges paroles sortaient de sa bouche, si étrange et si douloureuse à la fois qu'elle faisait éclater en moi des élans de pitié profonde et des accès de violente colère. En sorte que je me demande s'il n'y a pas dans sa vie passée une faute que je devrais punir ou un malheur que je dois déplorer. Le comte n'avait pu retenir cette terrible pensée qui assaillait continuellement son esprit. C'était sa jalousie et ses soupçons qui revenaient à la charge après avoir été si laborieusement refoulés. Roger vit que l'éclat conjuré jusque-là allait se produire. Il intervint par ces mots prononcés avec véhémence. « Vous parlez de punir lorsque vous la voyez mourante ?» Cette réplique, si douloureuse dans sa violence, ne parvint cependant pas à détourner M. de Lignières de cette idée fixe à laquelle nous avons fait allusion et qui l'obsédait sans cesse. En ce moment encore, la vue de Roger ravivait en lui le souvenir de la scène qui s'était passée entre eux dans le cabinet du magistrat. Le comte revit comme dans une hallucination le chevalier se précipitant sur le livre des archives de la police et en arrachant la page sur laquelle s'était portée son attention et où il était question de Diane de Vaudrey. Il eut un mouvement de colère. « Ah, si vous n'aviez pas arraché cette page fatale » s'écria-t-il. « Vous vous reprocheriez aujourd'hui une action coupable, » riposta Roger en se redressant devant son oncle. Mais M. de Lignières manifesta une défaillance morale dans cette phrase qui faisait capituler sa dignité devant le sentiment de jalousie qui l'étreignait de nouveau. « Cette faute eût été la mienne, » dit-il. « Il fallait m'en laisser porter tout le poids. » Le chevalier ne se contenait plus. « J'en devenais le complice, monsieur, » s'exclama-t-il avec hauteur. « J'en partagerais la honte. » Mais la phrase, si violente, demeura sans riposte. M. de Lignières s'était vivement tourné vers la porte de la chambre de Diane. D'un geste énergique, il imposa silence au chevalier. Un domestique tenait la portière soulevée pour donner passage à la comtesse. En effet, lorsque le valet s'était présenté pour faire transmettre par la femme de chambre de la comtesse le message du comte, Mme de Lignières se tenait étendue sur la chaise longue où elle passait les heures de répit que lui laissait la fièvre. En apprenant le retour du chevalier, Diane se leva pour courir au-devant de son neveu. Mais ses forces l'abandonnèrent, épuisée par l'effort, et la malade retomba sur la chaise, en proie à une agitation nerveuse qui effraya la camériste. Celle-ci, se portant à son secours, Diane l'écarta d'un geste de la main en murmurant. « Laissez-moi, cela ne sera rien. Je suis si heureuse. » Une légère rougeur nuança ses joues pâlies et ses yeux se mouillèrent. Cette bienfaisante réaction calma bientôt le mouvement nerveux qui agitait les membres de la malade. Diane se souleva de nouveau. Mais cette fois, elle était plus maîtresse d'elle-même. « Aidez-moi à me tenir debout, » dit-elle à la servante. Et, appuyée au bras de celle-ci, elle put faire quelques pas dans la chambre. Elle s'arrêta devant la psyché dont la glace lui renvoya ses traits alanguis. Elle eut un pâle sourire et, lentement, elle arrangea les boucles de sa chevelure pour tâcher de donner à son visage une expression plus reposée, plus calme. Et elle pensait « Il ne faut pas que ce cher enfant s'aperçoive des ravages que son absence a produits sur moi. » Puis reprenant le bras de la camériste, elle se dirigea vers le salon, dont le domestique, ainsi qu'on l'a vu, souleva la portière en voyant sa maîtresse paraître. La malade marcha en chancelant, et ce nom s'exhala de ses lèvres pâlies. « Roger !» Le chevalier avait eu un mouvement irrésistible pour aller se jeter aux genoux de cette tante affectionnée qui lui apparaissait, en ce moment, comme une victime condamnée aux souffrances éternelles. Mais Diane lui ouvrit ses bras et lui prenant la tête comme eût pu faire la mère qui s'était crue à tout jamais séparée de son enfant, elle y appuya ses lèvres agitées par la fièvre. M. de Lignières était demeuré à la place qu'il occupait lorsque la comtesse avait paru dans le salon. Il détourna les yeux en voyant Roger courir se précipiter dans les bras de sa tante. Au surplus, le chevalier ne faisait plus attention à lui. Tout à Diane, qui, brisée par l'émotion, chancelait dans ses bras, Roger soutint la malade pour l'aider à gagner un fauteuil. Et après l'y avoir fait asseoir, il fléchit le genou, plaçant son visage illuminé de bonheur sous les yeux attendris de Diane. Puis, caressant les deux mains pâles et amaigries qu'on lui abandonnait maternellement, il prononça ces mots dans un murmure. « Du courage !»« Ah !» répondit tristement la comtesse. « Du courage !»« J'en ai, puisque je vis !»« Diane !» s'exclama M. de Lignières en s'approchant du fauteuil où se trouvait la malade. Il y avait dans l'exclamation du comte comme un doux reproche dont Mme de Lignières saisit le sens, car elle s'empressa de dire en désignant le chevalier. « Je vous remercie, monsieur, de me l'avoir rendu. » Roger était maintenant aux petits soins auprès d'elle. Il ne pouvait se lasser de la contempler dans cette admirable beauté maladive que les souffrances avaient donnée aux traits de Diane. Il eût voulu pouvoir lui dire tout ce qu'il avait souffert à l'idée des malheurs qui avaient fondu sur Henriette. Il eût voulu avoir le loisir de s'épancher dans le cœur de cette seconde mère qui avait compromis sa tranquillité, son bonheur conjugal pour lui, et qui n'avait pas craint, elle, grande dame, d'aller dans la chambre de l'ouvrière chercher la preuve de l'amour réel dont le chevalier lui avait parlé avec tant d'enthousiasme. Mais en présence de celui qui, lui aussi, devait, pensait-il, éprouver de terribles douleurs morales, Roger garda le silence pendant les premières minutes, laissant à ses seuls regards le soin d'interroger et de répondre. Puis, profitant de ce que M. de Lignières s'était retiré dans l'embrasure d'une croisée et paraissait s'intéresser à ce qui se passait dans la rue, le jeune homme demanda doucement à Diane. « Vous avez donc beaucoup souffert ?»« Beaucoup, » répondit la comtesse avec un soupir. « Et toi aussi, tu as dû souffrir ?»« Ne parlons que de vous, » fit Roger en élevant la voix sans s'en apercevoir. Le comte de Lignières s'était vivement retourné. Mais il n'avança pas, se contentant d'écouter de la place où il se trouvait. Diane, pas plus que le chevalier, ne s'était aperçue de la nouvelle attitude du troisième personnage qui se trouvait dans le salon. Aussi, elle et lui se mirent-ils à causer familièrement, sans se douter qu'on écoutait, de tout ce passé si récent encore. Roger, en ce moment, eût désiré pouvoir dire à la confidente de son amour qu'Henriette était sauvée, que désormais l'innocente, elle ne partagerait pas le sort des misérables créatures qu'on arrachait des cellules de la salpêtrière pour les embarquer à destination du pénitencier de la Louisiane. Il avait une fiévreuse envie de rassurer la pauvre malade qui souffrait des angoisses éprouvées récemment autant que des souvenirs anciens, en lui parlant de son intention bien formelle de tenir la promesse faite à l'infortuné. Mais son regard s'arrêta sur M. de Lignières, toujours immobile dans l'embrasure de la croisée et plus que jamais attentif à ce que pouvait dire Diane à son neveu. Alors, Roger fit un imperceptible signe dont la comtesse comprit le sens car elle n'hésita pas à dire assez haut, faisant allusion à sa présence dans la chambre d'Henriette. « Je ne veux pas, Roger, que tu puisses croire que je t'ai oublié ou que je n'ai pas tenu ma promesse. » Le chevalier n'avait pu se défendre d'un mouvement en s'apercevant que M. de Lignières s'était rapproché de quelques pas pour écouter. Mais la comtesse le rassura aussitôt par ces mots. « Oh, je puis parler devant M. le comte. Il m'a trouvé chez elle. » « Oui, » fit Roger en se levant d'un bond, « chez cette pauvre Henriette. » Puis se tournant vers le comte avec une intention d'énergique reproche à l'adresse du magistrat implacable, il ajouta « Et sa douleur ne vous a pas attendri, monsieur ?» Mais monsieur de Lignières, au lieu de s'emporter comme il y avait lieu de le redouter, sembla asservir en ce moment sa pensée tout entière à un souvenir douloureux, à une souffrance morale incessante. Et il dit d'une voix grave « C'est qu'une autre douleur a plus vivement ému mon âme, bouleversé mon esprit, confondu ma raison. » Et s'animant. « Oui, vous étiez là, Diane, près de cette jeune fille, quand j'ai ordonné qu'on l'arrêtât. » Puis avec un redoublement d'amertume dans l'expression de son visage, « Je vous ai vue tremblante, agitée, presque folle, inconsciente de vos paroles, de vos actions, et voulant vous précipiter dehors. » Regardant bien en face la comtesse, « Est-ce vrai, Diane ?» La malade répondit simplement « C'est vrai. » M. de Lignières devint plus pressant. Il semblait qu'il se crût enfin, après tant d'infructueuses tentatives, sur le point de découvrir le mystère de la vie de Diane, ce mystère qui troublait son existence depuis son mariage avec Mademoiselle de Vaudrey. Dans l'empressement qu'il mit à s'approcher du fauteuil de la malade, il y avait comme une espérance de voir se déchirer enfin le voile qui lui cachait le passé de sa femme. Il y avait des larmes dans vos yeux, des sanglots dans votre voix. Et ce n'était pas pour celle qu'on arrêtait que vous m'imploriez. Ce n'était pas pour elle que coulaient vos larmes. Est-ce vrai, dites ? Roger lançait alternativement des regards pleins d'anxiété sur la comtesse et M. de Lignières. Diane avoua que son mari ne se trompait pas. « C'est vrai, » répondit-elle sans ajouter d'explication. « Mais sur qui pleuriez-vous donc ? » s'écria alors le comte qui, le buste en avant, les yeux rivés sur le visage de sa femme, paraissait vouloir fasciner la malade afin de lui arracher son secret. Diane avait fait un effort pour se lever. Et l'œil hagard, elle murmura comme se parlant à soi-même. « Sur qui ? Sur qui ?» Roger eut peur que, vaincu à la fin et sans force pour résister plus longtemps à ces questions, toujours plus fréquentes et plus pressantes, la comtesse se laissa aller, pour ainsi dire inconsciente, à quelque terrible révélation. Il saisit la main de la malade et obligea doucement celle-ci à tourner la tête de son côté. Dans ce mouvement, leurs regards se rencontrèrent et sans doute aussi se comprirent, car la comtesse dit d'une voix sourde « Ah, mon pauvre Roger, que je voudrais être morte !» M. de Lignières s'était aperçu du mouvement. Il avait en outre entendu les mots échapper aux lèvres frémissantes de la malade. Il eut comme un remords d'être le bourreau de cette malheureuse et de l'avoir persécutée sans cesse, en dépit des souffrances si vives dont il avait chaque jour le spectacle navrant. Il s'élança vers elle et lui dit avec un accent de profonde douleur « Diane, pardonnez-moi, j'ai eu tort de vous interroger. » Et s'efforçant de paraître convaincu, il ajouta en relevant la tête « Est-ce que vous n'êtes pas au-dessus de tous les soupçons ?» Il y eut alors entre les trois personnes une scène muette, rapide, pendant laquelle les jeux de physionomie dirent bien tout ce qui se passait dans l'esprit de ces trois êtres entre lesquels se livrait un combat sans issue possible. Quant à M. de Lignières, il paraissait vivement affligé d'avoir poussé si loin ce qui n'était de sa part qu'un interrogatoire déguisé. En entendant la comtesse souhaiter la mort comme une délivrance, il se sentit coupable et odieux de persécuter ainsi celle qui, à tout prendre, n'était devenue sa femme que pour obéir à une volonté paternelle rigoureusement manifestée. Il se dit, dans un rapide examen des années qui s'étaient écoulées depuis son mariage, que jamais l'épouse ne lui avait donné motif à une manifestation de jalousie, que la comtesse avait été pour lui la femme rivée à ses devoirs, qu'enfin cette Diane qu'il aimait passionnément avait besoin des plus grands ménagements pour résister aux assauts réitérés d'un mal implacable. Alors, sa poitrine haleta, comme s'il se fût accusé dans sa propre conscience. Son visage devint soucieux, et ses regards, chargés cette fois de bonté, semblèrent s'attacher sur la pauvre malade si chancelante, avec une expression d'indicible tendresse. Il hésitait, cherchant par quelle expression affectueuse il répondrait à ces paroles, empreintes d'un si profond découragement, « Que je voudrais être morte !» Lorsque la porte s'ouvrit et un domestique annonça que le docteur Hébert venait de se présenter à l'hôtel. « Ah, qu'il vienne ! Qu'il vienne vite !» s'écria M. de Lignières en se portant au-devant du médecin, dont l'arrivée était pour lui le secours providentiel.